18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez, c'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales de Radio U. Au programme aujourd'hui, et comme toute cette semaine, nous vous emmènerons à Fougères dans le cadre de la série de reportages L'Alimentation Autrement, qui est en coproduction avec la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. En deuxième partie d'émission, nous recevrons les membres du bureau de l'association AMA. AMA a été créée à Brest en mars 2021 par quatre étudiantes. L'association a pour objet social l'accompagnement des mères adolescentes victimes d'abus et ou de violences dans la poursuite de formations professionnalisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins et d'accéder à l'autonomie. Mais commençons tout de suite cette émission avec une info que vous n'avez pas pu manquer et qui fait froid dans le dos. La situation à Jérusalem et même un peu partout en Israël, sur la bande de Gaza et en Cisjordanie est plus que préoccupante, explosive, sans mauvais jeu de mots. L'association France-Palestine Solidarité Nord Finistère appelle à la manifestation ce samedi à 15h, place de la Liberté. Et pour en discuter, nous avons avec nous dans le studio Claude et Elodie d'AFPS Nord Finistère. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, une description succincte de l'association France-Palestine Solidarité. L'AFPS rassemble des personnes attachées aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la défense des droits humains. Elle a pour vocation le soutien au peuple palestinien, notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. Elle regroupe près de 5000 adhérents organisés en une centaine de groupes locaux en France. Ça vous va comme description? Vous voulez rajouter quelque chose?
Non, c'est tout à fait juste. Je crois que le maillage, comme on dit, du territoire national est assez révélateur de notre influence aussi au niveau de l'information et du plaidoyer.
Alors, la situation actuelle, comme je le disais, que ce soit en Israël, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, a fait, en tout cas, j'allais dire aux derniers chiffres, mais les derniers exactement, je ne sais pas, vu que la dernière fois que j'ai vérifié, c'était il y a une heure, mais au moins 58 morts. Les tensions qui ont démarré à Jérusalem se sont étendues dans plusieurs villes. Est-ce que on peut revenir sur l'explosion de cette violence? Est-ce que l'une de vous peut nous raconter d'où c'est parti? Claude, peut-être?
Oui, c'est quelque chose qui vient pas de se passer. Ça fait déjà quand même pas loin de 15 jours que les tensions ont commencé. D'abord par l'empêchement, c'est le mois du Ramadan, donc par l'empêchement par la police et l'armée israélienne des fidèles palestiniens d'accéder à l'esplanade des mosquées, qui est leur lieu sacré où ils prient pendant notamment la période du Ramadan, le soir, et de leur bloquer l'accès à la vieille ville de Jérusalem qui se trouve en territoire palestinien occupé, bien sûr. Il y a eu donc beaucoup d'échauffourées, comme on dit, et la violence de la répression israélienne a été énorme au point que on a pu parler de pogrom, en fait, de ratonnade contre, bien sûr, beaucoup de jeunes palestiniens. Parallèlement à ça, il y avait la volonté d'expulsion du quartier, un quartier un peu périphérique de Jérusalem qui s'appelle Sheikh Jarrah, et des familles qui vont se retrouver à la rue, encore une fois, et évidemment une présence militante solidaire d'énormément de gens qui sont venus et qui ont été aussi soumis à une répression absolument violente. En conséquence de tout ça, à Gaza, le Hamas, qui est aux affaires, qui a été élu, je le rappelle, a réagi. Et on est aujourd'hui dans une situation d'extrême danger, à la fois, bien sûr, pour le peuple palestinien, mais pour l'ensemble de la paix dans la région, bien entendu.
Comment on peut expliquer que ça explose à ce point-là, maintenant? C'est une conséquence qui vient de bien plus loin. Elodie?
Oui. C'est effectivement, ça dure depuis longtemps. C'est une politique qui vise à remplacer la population palestinienne à Jérusalem par une autre, celle des colons. Et c'est
Une épuration ethnique.
Une épuration ethnique, voilà, qui devrait être reconnue comme un... Enfin, c'est un crime contre l'humanité, ça devrait être reconnu comme tel et sanctionné comme tel. Et donc, si aujourd'hui, en fait, c'est plus... Il y a plus de tensions en ce moment, est-ce que... Je sais pas, est-ce qu'on peut faire lien avec le fait qu'il y avait des élections prévues ou pas uniquement?
Oui, je pense qu'on peut dire que les élections palestiniennes qui étaient prévues pour ce mois-ci, et puis juillet et même août, il y avait trois étapes. C'est quelque chose que les gouvernements israéliens de tout poil d'ailleurs ne veulent absolument pas voir, et comme à chaque fois qu'elles ont été possibles, il y a eu des pressions considérables de la part des autorités israéliennes pour qu'elles n'aient pas lieu, jusqu'à la violence armée telle qu'on la voit aujourd'hui. Il y a une conjonction de beaucoup de choses, hein. C'est que il y a aussi un problème politique palestinien évident, notamment en Cisjordanie, à l'intérieur du Fatah, qui est donc le parti qui tient, si l'on peut dire, l'autorité palestinienne, qui est le gouvernement de facto d'un État qui n'est pas reconnu, et qui en fait est en déshérence, hein, cette autorité palestinienne, qui est de moins en moins reconnue par les Palestiniens, notamment les jeunes, et qui tenait pas non plus beaucoup à ces élections. Donc cette conjonction des deux contraintes, si l'on peut dire, politiques autour des élections, a créé aussi énormément de frustration dans la population palestinienne, ce qui s'exprime également dans les revendications par rapport à l'expulsion à Sharshara ou l'accès à Jérusalem-Est.
En parlant d'élections, il y a aussi eu des élections en Israël qui ont finalement, j'ai presque envie de dire, rien donné, puisque aujourd'hui il n'y a pas de gouvernement officiel, c'est vraiment dans l'attente d'une coalition. Est-ce que pour vous, ça a aussi joué dans le sens où Netanyahou est finalement, c'est un peu l'impression que ça donne de l'intérieur, hein, presque en train de perdre pied, alors qu'avant il écrasait tout et remportait les élections sans aucun problème? Élodie?
Ouais, très clairement, c'est une manière pour lui de vouloir légitimer un pouvoir qu'il veut prendre en regroupant autour de lui, en gros, tous les colons, tous les fascistes, en fait. Donc, c'est clairement une manière pour lui de récupérer le pouvoir, quoi.
Et aussi, Netanyahou est un arriviste, hein, c'est quelqu'un sans foi ni loi, et qui est menacé de plusieurs procès pour malversation, corruption, etc. Et tant qu'il est Premier ministre, il jouit d'une immunité, évidemment, et il s'accroche désespérément au pouvoir depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a eu 4 élections en 2 ans en Israël, parce qu'il veut à tout prix éviter la casse-prison. Et je pense aussi que, parce que c'est lui qui a mis le feu à Jérusalem, hein, par la politique qu'ils viennent de mener dans les 15 jours passés, les 3 semaines passées, et il joue sa survie. Et je pense qu'il va la jouer encore plus en intensifiant la répression. La répression, elle a été, mais d'une violence folle, hein, que ce soit les tirs à balles réelles, que ce soit les grenades assourdissantes, les lacrymogènes. Ils ont mis à sac la mosquée Al-Aqsa, quand même, qui est le 3e lieu saint de l'islam, et ce qui pose évidemment des problèmes, y compris avec l'Arabie Saoudite, qui n'est pourtant pas ouverte aux droits de l'homme et aux droits des Palestiniens. Et il a enclenché là un cycle vicieux qu'il espère pouvoir le sauver, mais qui est en train de mettre la région à feu et à sang, en fait.
Toujours pour rester sur le côté politique et élections, est-ce que le fait que Joe Biden soit arrivé à la tête des États-Unis après Trump, qui avait quand même ouvertement soutenu Israël, le déplacement de la capitale politique de Tel Aviv à Jérusalem, ça a changé quelque chose? On a vu que certains pays arabes, vous parliez tout à l'heure, Claude, de l'Arabie Saoudite, qui sous Trump avait quand même pris largement ses distances avec la Palestine, et voilà, et plus tout à fait sur la même ligne. Est-ce que ça a aussi changé beaucoup de choses?
Ça a changé des choses, je dirais pas beaucoup peut-être, mais bon, pire que Trump, on ne pouvait guère trouver, hein, Trump et puis son gendre Jared Kushner, qui est un ami des partis des colons qui sont de plus en plus d'extrême droite, si ça peut se dire comme ça, en Israël. Et le fait qu'il soit battu par quelque chose qui correspond quand même à une élection démocratique aux États-Unis, C'est encourageant dans la mesure où Biden prend le contre-pied sur beaucoup de domaines. Donc là, il a dit malheureusement qu'il ne redéplacerait pas l'ambassade US à Tel Aviv. Mais il a repris l'aide financière des États-Unis à l'Organisme des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, que Trump avait complètement supprimé. Il a annoncé, en tout cas, qu'il allait laisser l'OLP réouvrir un bureau à Washington et qu'un consulat général des États-Unis serait ouvert à Jérusalem-Est. Il y a donc des signes comme ça. Par contre, il réaffirme systématiquement son soutien inconditionnel à Israël, des déclarations d'amour que lui et la vice-présidente US font constamment. Et ici, bon, il vient de dire que il fallait à tout prix que les violences s'arrêtent, mais disons que au mieux, il met dos à dos les deux parties, alors que la disproportion est tellement phénoménale et qu'elle est éclairante pour tout le monde. Et au pire, il relaie le discours israélien. Donc on a une amélioration, certes, mais on est quand même dans un cadre où il représente la politique des Nations Unies et les alliances préférées de toujours avec les dirigeants israéliens, quels qu'ils soient.
J'avais envie de parler aussi avec vous de quelque chose qui est problématique, en tout cas que vous relayez comme problématique, c'est le traitement médiatique sur votre jour les gros yeux de Claude et dire oui effectivement. Voilà, j'ai vu relayer sur votre page Facebook par exemple un argumentaire qui, si on reprend ne serait-ce que le premier point, rappelle que les mots et les discours sont importants, que là on peut pas parler de heurts ou simplement de tensions. Est-ce que c'est un problème franco-français sur le traitement médiatique? Par exemple, si on voulait s'informer sur la situation actuelle, il y a encore une semaine, voire un peu plus, on ne pouvait tout simplement pas le faire sur les chaînes et les sites d'information français.
Je ne sais pas du tout si c'est typique à la France. Pour les autres médias, je ne sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est clair que c'est une manière d'euphémiser, en fait. C'est encore le même euphémiser, le mot est faible. C'est une manière de masquer, en fait, ce qui se passe pour ne pas dénoncer. Parce que si on appelait un chat, les choses seraient obligatoirement dénoncées. La colonisation, comme on disait, l'épuration ethnique. Tout ça, c'est des crimes. L'apartheid, tout ça, c'est des crimes contre l'humanité. Où il n'y aurait pas d'autres choix que de le sanctionner, en fait. Et donc d'utiliser ces mots-là en les mettant à égalité, en disant que c'est un conflit, qu'ils sont dos à dos, en expliquant qu'en fait les Israéliens se défendent contre des attaques terroristes qui viennent de Gaza, c'est une manière en fait de ne pas se positionner pour lutter contre ce qui est en fait une colonisation et un crime contre l'humanité depuis maintenant des décennies, en fait.
Alors c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Grande-Bretagne. Les grands médias, c'est des clashs, des heurts, et les méchants terroristes palestiniens, bien sûr, qui attaquent Israël, qui est obligé, malheureusement, de bombarder Gaza. Ils voulaient pas, hein, mais bon, ils sont obligés. Donc, il y a une désinformation systématique au niveau des grands médias qui, comme dit Elodie, qui date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Cependant, on voit depuis quelques jours, et je pense que c'est peut-être lié au nombre grandissant de morts et de blessés, que des médias comme Le Monde, comme France Culture, France Inter, commencent à faire une présentation qui est beaucoup moins biaisée. D'abord, qui en parle? Parce que vous avez raison, il a fallu attendre des jours et des jours pour qu'on en entende parler, sauf sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et il y a donc une évolution qu'on apprécie beaucoup, hein, bien sûr, sur certains des grands médias. On espère que ça va continuer. Et on voit des termes apparaître comme Palestine occupée ou Jérusalem-Est occupée, etc., qui sont relativement nouveaux dans le discours médiatique global.
Oui, c'est vrai que pour aller dans votre sens, ce matin sur France Culture, le correspondant à Jérusalem, Frédéric Mettezo, utilisait les termes de colons. C'est vraiment des termes qu'on n'entendait pas si souvent que ça avant. Là, ça commence à arriver. Est-ce que c'est finalement le début d'un espoir par rapport au traitement médiatique?
Oui, espérons qu'il y a une prise de conscience de l'inacceptabilité de la situation qui est faite aux Palestiniens. Moi, je ne dis pas que les journalistes sont malhonnêtes. Hein. Beaucoup d'entre eux sont des gens tout à fait honnêtes et qui ont sans doute beaucoup de frustration à ne pas pouvoir dire davantage. Au niveau des grandes rédactions et au niveau des propriétaires des grands médias, par contre, l'alignement sur les dirigeants israéliens est évident, mais depuis très longtemps. Et comme au niveau français, il y a aussi quand même un alignement, même bon, pas aussi clair, mais assez évident quand même de nos autorités par rapport au discours israélien. Les médias appliquent en quelque sorte une espèce d'omerta parce qu'il faut pas déplaire aux puissants. Et les puissants, eux, malheureusement, sont en soutien à la politique israélienne d'épuration depuis 1948 et puis même avant. Hein.
Ouais, on a l'impression que à chaque commentaire sur la politique israélienne, justement, on marche sur des œufs, à pas forcément oser la critiquer de peur de se faire taxer d'antisémite, etc. Est-ce que c'est aussi finalement le fond du problème là-dessus, sur la prise de parole?
Oui. Il y a un harcèlement évident du mouvement de solidarité avec la Palestine, mais au-delà des défenseurs des droits humains et des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, où l'amalgame est fait systématiquement entre la critique de l'État d'Israël, qui, alors là je le dis très clairement, est un État voyou, qui pratique l'épuration ethnique et qui commet des crimes de guerre et contre l'humanité, comme l'a dit Elodie, et un antisémitisme que nous condamnons formellement, comme toutes les formes de racisme. Mmh. Et on est soumis à une pression considérable, à des menaces. Il y a en France un groupe de pression, hein, le CRIF, qui est en fait une ambassade d'Israël bis, et qui fait du lobbying auprès de nos autorités en permanence pour nous décrédibiliser, pour nous délégitimer, et même pour nous criminaliser, en fait. Donc, il est extrêmement important que nous maintenions un discours extrêmement clair sur le droit, l'attachement au droit, vous l'avez dit, hein, c'est la base de notre engagement, et nous n'acceptons absolument pas la discrimination, toute forme de racisme, comme je le disais, que nous travaillons avec beaucoup d'ailleurs de juifs, hein, il y a des mouvements juifs en France qui s'opposent vivement à la politique israélienne, et qui sont nos partenaires naturels. Et par contre, nous sommes soumis à un feu roulant de pression qui est malheureusement entendu par nos autorités nationales. Et ça, c'est quand même bien préoccupant.
Ouais, je précise par exemple quand vous parlez d'État voyou que Netanyahou est encore et toujours accusé de corruption. Par exemple, donc c'est vraiment, si je comprends bien vos propos, c'est critiquer la politique du gouvernement israélien et pas la politique d'Israël en tant qu'État, par exemple, pour aller plus loin.
C'est-à-dire que c'est compliqué en Israël parce que l'État et le gouvernement, c'est difficile à différencier, en fait. Et dans toutes les structures de l'État israélien, il y a la même logique d'exclusion des Palestiniens, de repli sur soi en tant que population juive. Il y a depuis 2018 une loi qui a été votée très unanimement, qui est la loi de l'État-nation, et qui dit qu'Israël n'est l'État que des juifs. Or, il y a plus de 20% de la population en Israël qui est palestinienne. Les Palestiniens qui n'ont pas été chassés en 1948 pendant ce qu'on appelle la Nakba, hein, où 800 000 Palestiniens ont été chassés par la terreur de chez eux. Et ces gens-là ne sont pas considérés comme des citoyens normaux, acceptés, puisque pas juifs. Il est d'ailleurs intéressant de noter que pour la première fois depuis très très longtemps, la population palestinienne d'Israël vient de descendre dans la rue, là, en solidarité avec Jérusalem-Est, avec Cheshara et avec Gaza sous les bombes, et qu'il y a eu une rébellion citoyenne de la population palestinienne qui a complètement affolé les autorités israéliennes, puisque dans une ville qui s'appelle Lod, les autorités ont demandé l'aide de l'armée pour remettre leurs Arabes en ordre. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que la population palestinienne est fragmentée, hein, entre ceux de Palestine historique, que ce soit Cisjordanie, et dont Jérusalem, Gaza, et d'Israël aujourd'hui, et puis les réfugiés. Et là, on voit que ça se resserre, qu'il y a une nouvelle conjonction qui se fait entre les différentes formes les différentes structures de la société palestinienne. Et partout, dans toutes les villes, les villages, les camps de réfugiés, que ce soit en Palestine ou dans les pays limitrophes où sont les réfugiés, il y a des manifestations, mais gigantesques, quoi, en soutien à la Palestine, et notamment à Jérusalem, parce que Jérusalem, évidemment, c'est un point clé, hein, à la fois de l'occupation et puis à la fois de la revendication nationale palestinienne.
Oui, et puis je précise que même à l'intérieur de la, des juifs en fait en Israël, il y a aussi des discriminations, par exemple envers les juifs éthiopiens, etc. Et donc il y a aussi beaucoup d'autres problèmes, malheureusement, au sein de l'État d'Israël. Pour revenir à la manifestation qui aura donc lieu samedi, 15h, place de la Liberté. Qu'est-ce que vous demandez pour cette manifestation? Quelles sont les revendications? C'est que la communauté internationale, la France, prenne position, c'est ça, Élodie?
Oui, très clairement qu'ils prennent position, qu'ils sanctionnent.
Oui.
Qu'ils sanctionnent, en fait. Qu'ils sanctionnent, mais aussi qu'ils arrêtent d'être complices. Parce que, actuellement, enfin, dans la mesure où en Israël, en fait, par exemple, il y a énormément aussi de Français qui sont soldats israéliens parce qu'ils sont juifs et qui peuvent l'être, du coup. Et donc, du coup, il y a aussi des soldats français qui font partie de l'armée d'Israël. Donc, de ce point de vue-là, en fait, non seulement on cautionne pas, mais on participe. On participe.
Donc, Et puis, bon, la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En tant que telle, elle est garante du droit international. Elle est tenue de le faire appliquer. Or, les violations du droit international par les autorités israéliennes, quelles qu'elles aient été, hein, au fil du temps, sont constantes. Que ce soit donc l'occupation, Élodie l'a signalé tout à l'heure, l'occupation est un crime de guerre, la colonisation est un crime contre l'humanité, l'apartheid est un crime contre l'humanité, les massacres de civils, parce que ce sont des civils qui tombent sous les bombes israéliennes maintenant, les massacres de civils sont un crime contre l'humanité, ces violations du droit international sont mais totalement inacceptables. On ne comprend pas d'ailleurs comment la fameuse communauté internationale laisse faire, dont la France qui se réclame des Lumières, le pays des droits de l'homme, etc., elle laisse commettre des crimes et, comme disait Élodie, elle en est donc complice, en fait. Donc, ce que nous voulons demander samedi, et pas que nous, parce que dans la France entière, tous nos groupes, on en parlait, hein, du maillage de la FPS, tous nos groupes seront en manifestation rassemblement samedi. Nous demandons que la France prenne ses responsabilités et qu'elle fasse arrêter d'abord immédiatement les bombardements et puis les violences à Jérusalem contre les Palestiniens, puis qu'elle fasse appliquer le droit. Et le droit, c'est la fin de la colonisation, c'est la fin de l'occupation, c'est évidemment la protection des civils, ça c'est, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, c'est le, vraisemblablement, ça doit passer par la reconnaissance de l'État palestinien, même si on sait très bien que aujourd'hui ce serait plus symbolique qu'autre chose. Mais c'est prendre une position absolument carrée de défense du droit et d'imposer donc des sanctions à Israël tant qu'ils ne se conforment pas au droit international. Et les sanctions, ça peut être arrêter de leur vendre des armes, arrêter la coopération sécuritaire entre les polices, arrêter de la coopération universitaire même, dans la mesure où toutes les universités israéliennes travaillent pour l'armée israélienne. Enfin, on a des tas de moyens, hormis les pressions économiques, qui sont un peu plus difficiles à réaliser. Mais au niveau de ces grands principes que sont la sécurité, etc., bien sûr qu'on peut faire des pressions. Et si on leur dit on ne vous vend plus de Rafale, allez, ou bien on ne vous laisse plus participer à des événements européens, ça changerait considérablement les choses. Mais il n'y a pour l'instant pas de volonté politique et on peut se demander pourquoi. Et on peut, et on le fait légitimement, s'en indigner. Et on va donc tenter de faire pression par nos manifestations samedi, pour que notre exécutif, enfin, se comporte dignement, parce que il se comporte de manière indigne en ne disant rien.
Ça peut se jouer aussi à d'autres niveaux. Là, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Le départ du Tour de France, c'est le 26 juin de Brest. Et il y a une équipe qui s'appelle Israel Startup Nation qui va participer au Tour de France. Il me semble que c'est pour la deuxième année consécutive. Est-ce que ça peut être les menacer, par exemple, de retirer leur participation au Tour de France, puisqu'on sait que développer une équipe comme ça, c'est clairement agir sur du soft power.
Ah, complètement. Mais ils ne le cachent pas, d'ailleurs. Hein. Ils affichent qu'ils sont la vitrine d'Israël et que leur présence dans le Tour de France, ce n'est pas sportive du tout, qu'elle est un affichage politique de soutien à un pays qu'ils considèrent vilipendé à tort. Alors, je ne sais pas, au niveau sportif, s'il est possible de dire qu'une équipe ne peut pas se présenter parce qu'elle représente un pays que nous, on considère comme effectivement violant le droit constamment. Par contre, ce que nous allons faire, c'est dénoncer cette équipe et montrer que, enfin, tenter de montrer que leur présence et toute la communication autour, c'est du blanchiment de crimes de guerre, en fait. Hein. C'est payé très, très grassement par un milliardaire pro-israélien, pro-sioniste, qui utilise son argent pour engager des coureurs qui ont quand même un nom assez porteur pour certains, notamment, et qui vont un petit peu partout avec leur symbole israélien faire croire que Israël est un pays normal. Israël n'a rien d'un pays normal. C'est un pays occupant, c'est un pays qui pratique l'illégalité et les violations du droit tout le temps. Donc on va être présent sur ce Tour de France pour faire savoir ce qu'il en est.
Bien, merci beaucoup à toutes les deux, Claude et Elodie d'AFPS Nord Finistère. Rendez-vous donc samedi, 15h, Place de la Liberté, avant peut-être un autre rendez-vous le 26 juin pour le départ du Tour de France.
Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Radio U.
Merci.
Et puis on écoute Dame avec le titre Born Here.
Très bien.
הטרף הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוד תחת שלטון העית בוא נעשה משהו אופטימי יותר הרי כל יום אני מתעורר רואה איזה אלף שוטר אולי הם באו לעצור סוחר בוא או לא הם באו להרוס את הבית שלה שכן שלו מה קורה פה? בוא הצינה סובבת את הגטו למה קשה לו? ומי יענה לו? לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי עברתי על החוק לא החוק עבר עליי די די רבותיי כאן נולדתי כאן נולדו גם סבותיי לא תלתו אותי משורשיים יש לי אמונה במשטרה אם תרצו אין זו אגדה עוד לא אישרתם מי לפתוח מפסת לעמוד עליה ולבטא אותה
מים לא חריף מחג'ור הוא משלט סחריר עמוס ברחר חניה דור הלט תשמיר יזמן סבח הנסיעה מלחה תפריח סור עציר רח יקצר אופס אחרתו יחלק ונדיר
כאן בניתי את ביתי וכאן הרסתם את ביתי ואם זה לא חוקי מים שלך בן דודי אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאוש ומצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה אבל זה רק לחפור עוד רכבת ריסה בשיר הזה אין צנזורה יש גדר ביוף מסילה קרא לי זרחי תקטורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן בכל הזברים שאמרתי רק נהיה להם קול ויש את אנשים שעומדים בתור שיש להם חיוך בחיוך וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבר סבוך מדי זה לא גזענות זאת ציונות די זה לא בורות זה רק התחפרות בבורות
מים לא חריף נחשו להו משלק סחרים עמוס ברפר
בית הרוס ובגינה שמונה מסילות וביום עוברות לפחות 200 רכבות מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה זה נמצא בין שניר לבין ניר צבי וטענת עירייה שהכל שם רחוקי השנייה מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים מוקפת בביוף גן ילדים מוקף בביוף אז אין תירוץ פשוט, העירייה לערבים לא דאגה כאן לממשלה יש משאלה מקסימום יהודים על מקסימום אדמה מינימום ערבים על מינימום אדמה הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק
מה אם לא חריף נחשו לאום משלב סחריר עמוס ברפר
Et vous écoutez toujours, c'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale de Radio U. On a avec nous dans le studio Pauline et Maëlle de Hama, je le disais en introduction de cette émission, Hama, ça a été créé en mars 2021, c'est tout jeune comme association, et c'est une association qui a pour objet social l'accompagnement des mères adolescentes victimes d'abus et ou de violences dans la poursuite de formations professionnalisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins et d'accéder à l'autonomie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Ça vous va comme présentation ?
C'est parfait. Très bien.
Ça tombe bien, ça vient de votre site internet. Vous allez mieux. Du coup, vous avez monté cette association parce que vous êtes étudiante dans le Master Management de Projets Internationaux qui dépend de la filière LEA, si je ne m'abuse.
C'est ça. Pourquoi
vous avez choisi cette thématique ? C'est la première question.
Pour plusieurs raisons. Alors d'abord, en tant qu'étudiante et jeune femme, on est quand même très éduquée et très alerte sur ce qui se passe dans le monde, notamment la situation des femmes. Et donc c'est parti d'une volonté de s'engager en tant que femme pour les femmes. On voulait faire de l'humanitaire, on voulait faire de l'associatif, mais on voulait aussi être en accord total avec nos valeurs et avec ce qu'on voulait défendre. Donc on s'est dit que le plus simple, ce serait pour nous de créer notre association pour pouvoir mener les projets qui nous tiennent à cœur et qu'on veut mener jusqu'au bout aussi.
Ok, et il n'y avait pas ce que vous vouliez, il n'y avait rien d'existant à Brest, quoi. Vous vouliez créer, vous, vraiment votre propre structure.
Alors il y avait... Il y a quelques petites structures quand même, il faut le dire, hein. On n'est pas les seuls à pouvoir avoir des projets de ce type. Mais c'est à ce moment-là que le projet tutoré de notre master entre en jeu. On devait, à l'occasion de ce semestre, faire un projet de dimension internationale de notre choix. On était vraiment libre de choisir ce qu'on voulait. Donc on s'est dit que c'était le moment de lancer notre asso, de lancer nos projets à nous. Comme ça, en plus, on était suivis si on avait besoin d'aide dès le début au niveau associatif. Et après, comme ça, on était lancés tout ensemble.
Oui, c'est sûr, c'est mieux d'avoir des épaules sur lesquelles se reposer quand on veut se lancer dans cette aventure-là. Donc, vous avez décidé de collaborer avec un foyer pour jeunes mères adolescentes qui s'appelle Juana de Asa à Cusco, donc dans le sud-est du Pérou. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce foyer ?
Oui, alors c'est un foyer qui est dirigé par des religieuses. Elles sont au nombre de 4. Et ce foyer recueille principalement des jeunes filles en difficulté, notamment en prenant de difficultés qui viennent de leur milieu familial. Et elle recueille notamment aussi des jeunes mères adolescentes qui ont été retirées de ce milieu familial-là à problème pour pouvoir être dans un milieu beaucoup plus sain pour elles et leurs enfants, puisque la plupart ont un enfant aujourd'hui.
C'est-à-dire que ce sont des jeunes femmes qui, bon, voilà, c'est un peu dur d'aborder le sujet, mais qui ont été victimes d'inceste, par exemple. Quand tu dis des familles à problème.
Oui, c'est ça. Pour la plupart, c'est de l'inceste, soit du père directement, ou alors oncle, cousin, famille très proche. Et donc oui, c'est pour ça qu'elles ont été retirées de leur famille directement, soit par des associations autour du foyer qui les connaissaient et qui savaient qu'elles étaient en difficulté, soit par les services sociaux péruviens.
Et alors, je me demandais pourquoi le Pérou ? Je précisais que le Master Management de Projets Internationaux faisait partie de LEA, donc la filière langue étrangère appliquée. Généralement, il y a anglais, espagnol, et voire d'autres langues si affinité. Donc je pense que c'est une partie de la réponse, mais pourquoi le Pérou ?
Pas forcément une partie de la réponse, parce que nous, on est sortantes de LEA anglais-chinois.
Okay.
Donc au final, il n'y avait pas du tout de rapport. Mais c'est déjà parce qu'on adore les pays d'Amérique latine. C'est vraiment, on aime vraiment beaucoup ces pays. Et notre vice-présidente, Maria, est péruvienne de nationalité. Elle fait ses études en France. Et elle a vécu au sein du foyer quelques années, pas par rapport à des problèmes familiaux, mais parce qu'elle a pu y vivre. Et du coup, maintenant, elle est bénévole au sein de ce foyer-là. Donc, elle connaît directement ces jeunes femmes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est plus tourné vers elle. Comme on pouvait avoir un contact direct, apprendre à les connaître personnellement aussi, et pas seulement à l'occasion de ce projet, on a préféré le Pérou et le foyer de Cusco principalement.
Et du coup, l'objectif final, parce que c'est vrai que présenté comme ça, on peut se dire c'est un peu abstrait. Oui, on veut aider, ce qui est très louable en soi. Mais du coup, est-ce qu'il y a un objectif concret que vous êtes fixé ?
on a un objectif concret. Au sein du foyer, il y a 4 femmes justement qui sont en âge de passer le baccalauréat cette année. Et ces jeunes femmes souhaitent faire des études supérieures. Donc on s'est donné le défi, si on peut appeler ça comme ça,
oui, je pense.
De pouvoir réunir les fonds nécessaires pour qu'elles puissent faire des études supérieures justement au Pérou, donc à Cusco, étant donné que la ville est très grande, il y a des foyers à proximité, des instituts à proximité, donc elles pourront étudier là-bas comme bon leur semble. Et pour ça, on a besoin justement d'un petit coup de pouce financier. Donc, pour le matériel informatique, puisqu'il est assez vétuste, mais aussi pour les fournitures scolaires et également pour les inscriptions, justement, dans les instituts.
Ben, c'est le moment de passer l'appel, hein. Ça y est, tu as fait quasiment tout le travail. En gros, combien il vous faut et c'est quoi? Ça passe par un appel aux dons, si j'ai bien compris, sur HelloAsso?
Alors, on a une plateforme justement sur HelloAsso, donc notre financement participatif s'élève à 3000 euros sur la plateforme. À côté, on a aussi, comme on est une association, on a aussi un appel aux adhérents, si les gens souhaitent aussi participer en interne à notre association. Et on a aussi un appel aux dons sur notre site internet. Donc, si les gens ne veulent pas forcément passer aussi par la plateforme de financement participatif, ils peuvent passer aussi par le site internet.
Alors, le site internet, c'est ama-asso.weebly.com.
C'est ça.
Comment on peut faire pour vous aider, enfin, si on a envie de devenir membre, s'il y a des auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui se disent que c'est un super projet, de quoi vous avez besoin, je ne sais pas, comme compétences par exemple?
On n'a pas forcément besoin de compétences. Je pense que chacun peut apporter quelque chose à son niveau avec ce qu'il sait faire, ce qu'il a appris sur le tas, ou même des compétences professionnelles si certains ou certaines sont intéressés. Donc, pour devenir membre, il y a le moyen le plus rapide, disons, c'est d'aller sur notre site internet. Il y a une rubrique « Devenir membre ». On nous envoie le formulaire, nous on l'étudie, on répond, on récupère la cotisation et c'est bon. Après, si les gens souhaitent en apprendre un peu plus, prendre contact directement avec nous, les membres du bureau, toutes nos informations sur nos réseaux sociaux, on est super réactifs. Vraiment, je pense que dans la minute, on a répondu. Donc, et on serait très heureuses aussi d'avoir des contacts directs. Donc, c'est aussi un moyen de passer pour devenir adhérent, pour être sûr de son choix aussi, de s'investir dans sa vie associative.
Ouais, d'abord, vous rencontrer, discuter, voir ce qui est possible de faire. Et puis, j'ai presque envie de dire de votre côté, toute bonne volonté et bonne apprendre.
Voilà.
Oui, après, la thématique spécifique aussi de notre sujet fait que c'est des missions associatives qui sont très précises aussi. Hein. Pour le moment, par exemple, sur le territoire brestois, on n'en a pas actuellement. On veut en avoir sur le long terme, mais actuellement, c'est un peu compliqué. Donc, il faut aussi prendre cet aspect-là en compte, que notre thématique est très spécifique, très particulière et très sensible aussi.
Oui, alors j'allais vous demander ça justement, parce que c'est un projet de fin d'études, un projet tutoré, mais en même temps, est-ce que vous projetez plus loin? Est-ce que vous avez envie de pérenniser l'asso, de faire plus de choses? Et tu as commencé à y répondre en disant, voilà, on veut faire des choses sur le territoire.
Oui.
Ouais, c'est ça l'idée.
Ah oui, Ama, on veut qu'elle aille, l'association.
Qu'elle perdure.
Normalement, enfin, dans les statuts, c'est 99 ans, enfin, la durée maximale, mais c'est okay. Reconductible. Donc, on peut vraiment la lancer au-delà même de l'imaginable. Mais oui, on l'a créée, nous, pour ce qu'on voulait. Mais on espère qu'elle va plaire aussi aux autres et qu'elle pourra aussi aider plein d'autres jeunes femmes ou femmes qui seront dans le besoin aussi. C'est le but ultime quand même, que chacune puisse venir faire appel à Ama pour se sortir d'une situation qu'elle ne veut plus, qu'elle ne souhaite plus.
Alors, si j'ai bien compris, vous êtes 4 à l'avoir monté, 4 jeunes femmes. C'est un concours de circonstances? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la promo, ou c'est parce que c'est une thématique spécifique qui peut un peu effrayer les mecs?
Ah, c'est une très bonne question. Je crois qu'on ne se l'est pas posé, parce que c'était très naturel pour nous. Avec Maëlle, on se connaissait déjà de la licence, donc le filon s'est fait très naturellement pour le projet tutoré, surtout sur cette thématique-là. Après, 4 jeunes femmes, peut-être parce que on a eu le plus d'affinité entre nous, et on s'est retrouvés à fond dans ce projet. On voulait, toutes les 3, avec Jade, la trésorière, faire de l'humanitaire. Après, il fallait aussi pousser cette idée, quel type d'humanitaire, dans quel pays, etc. Et c'est là que Maria est venue nous voir. J'ai appris que vous vouliez faire quelque chose d'humanitaire, notamment pour les femmes. Ben, moi, je connais un foyer. Donc, ça a vraiment peut-être été un concours de circonstances, au final. On s'est retrouvés sur nos valeurs et sur notre envie d'aider. Et c'est pour ça qu'on est partis toutes les quatre. On s'est dit, bah, allez, c'est parti.
C'est tombé à pic.
Ouais, vraiment.
Ok, non mais c'est très bien. Je dis ça et comme ça aussi il y a des auditeurs du coup qui nous écoutent et qui veulent rejoindre la cause. Il y a absolument aucun problème,
absolument.
Évidemment. Sur votre site internet, je vais le redonner au cas où. C'est donc ama-asso.weebly.com. Vous avez aussi un onglet qui s'appelle les mercredis de la culture, que j'ai trouvé très sympa. Du coup, c'est toutes les semaines, vous postez des articles sur la culture péruvienne, c'est ça.
En fait, toutes les semaines, on aborde un aspect de la culture péruvienne. On a justement mis en ligne, avant de venir, le dernier article concernant le Machu Picchu. Et donc, en fait, toutes les semaines, on aborde un sujet différent, voilà, pour que les gens aient des petites idées de ce qui se passe au Pérou, de ce que les gens mangent, comment ils s'habillent, quelles sont leurs habitudes, et pour en apprendre un petit peu plus, en fait, justement.
Oui, parce que finalement, on n'en connaît pas tant que ça sur le Pérou. On imagine beaucoup de choses, on y voit les tenues traditionnelles, le Machu Picchu, et voilà, c'est tout ce qu'on en connaît. Donc, c'est toujours bon d'avoir des petites connaissances en plus sur ce pays-là.
Et du coup, ces articles, c'est Maria qui les fait en tant que péruvienne ou c'est partagé parce que vous faites des recherches aussi et peut-être que d'ailleurs vous allez trouver des choses qu'elle ne connaît pas forcément, on ne connaît pas forcément l'intégralité de la culture de son propre pays.
Alors c'est Maria qui donne la plupart du temps les idées concernant justement les articles. Après, généralement, elle les co-écrit avec Jade. Puisque Jade est une très bonne écrivaine.
Oui, il faut le dire, vraiment.
Voilà, donc du coup, elle le coécrit avec Jade. Étant donné que Maria est en France depuis quand même de nombreuses années.
Je crois que ça fait 5 ans maintenant, si on cumule ses années en France.
Voilà, elle écrit très très bien français, au niveau de la syntaxe, c'est très très bien. Mais c'est vrai que parfois, elle oublie quelques petites choses, ou alors il y a quelques petites lacunes en français. Donc Jade passe aussi derrière pour que les mercredis de la culture soient au top, quoi.
Vous, qu'est-ce que vous avez appris, parce que j'imagine que vous êtes pas mal documenté, etc., sur le Pérou, et comme vous le disiez toutes les deux, c'est pas forcément un pays qu'on connaît énormément, nous, en tant que Français. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui vous a marqué, je sais pas, chacune, sur ce pays-là?
Alors, moi, ce qui m'a surtout marqué, j'en avais une connaissance... Bon, je vais peut-être plomber l'ambiance, je suis désolée, mais...
Il n'y a pas de problème.
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de prendre conscience de la situation de la population péruvienne. Notamment avec le contact du foyer, on s'est vraiment rendu compte... En France, pardon, on a de la chance au niveau institutionnel, c'est qu'on est accompagné. On est aidé, alors qu'au Pérou, heureusement qu'il y a des associations et des foyers religieux, parce que, justement, il y en a vraiment besoin. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Puisque j'étais partie du postulat que c'était comme en France, on avait des institutions aussi qui aidaient, alors que très peu. Et ça m'a marqué. C'est quelque chose qui m'a marqué quand même.
Ouais,
tu veux dire dans le sens, il n'y a pas de sécurité sociale, etc.,
non.
Pas de caisse de retraite, rien du tout, quoi.
Rien du tout. Et même au niveau de l'accompagnement pour les jeunes, je parle en filles comme garçons en difficulté, c'est pas comme en France où on a beaucoup de structures, que ce soit en soutien familial, soutien scolaire, pour tout type de difficultés. Au Pérou, pas du tout. Pas du tout.
C'est énormément la branche catholique en fait qui prend justement sous son aile les personnes qui sont en difficulté au Pérou et l'État reste quand même très marginal par rapport à ça.
Ok. Et
désolée.
Non, mais il faut le dire. Hein, vaut mieux l'expliquer justement et ça donne encore plus d'importance à ce que vous faites. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a marqué?
Bah moi justement c'est la différence entre l'État entre guillemets et les citoyens. L'État, comme dit Pauline, on a fait beaucoup de recherches en fait concernant le contexte social au Pérou et particulièrement à Cusco. Et on a eu la chance de rencontrer une association qui s'appelle Los Chicos de Cusco. Donc on a rencontré la vice-présidente qui s'appelle Madame Lemoine. Et ils œuvrent justement pour aider les enfants à Cusco. Qui sont dans des écoles qui se situent en altitude, donc qui sont un petit peu vétustes. Et elle nous a expliqué, vu qu'elle se déplace tous les ans à Cusco pour prospecter et voir comment se passe le déroulement dans les écoles, Madame Lemoine nous a expliqué que l'État laissait complètement tomber en fait toutes les institutions qui n'étaient pas qualitatives, si je puis dire, qui n'avaient pas forcément d'espérance de relever en fait un niveau pour faire en sorte justement que l'école soit au top du top. Donc justement, eux, ils agissent pour faire en sorte que les enfants aient des endroits pour étudier qui sont sains et salubres en fait.
Et un peu partout aussi.
Un peu partout, ouais.
Qu'il y ait un accès à l'éducation beaucoup plus étalé, si je puis dire, au niveau de la ville et pas seulement dans le centre. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux,
merci
Pauline
à
et Maëlle, d'avoir été dans nos studios. Je rappelle donc l'association AMA. Vous pouvez aller voir le site internet ama-asso.wibli.com. Sur tous les réseaux sociaux aussi,
oui,
vous pouvez les donner d'ailleurs.
Alors, on est sur Facebook, donc c'est association AMA également. On est aussi sur LinkedIn, c'est AMA Asso. C'est ça.
Et on est vraiment très, très, très présente sur les réseaux sociaux et surtout sur Facebook.
Ouais, vraiment.
Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter, à aller les rencontrer, leur filer un coup de main, leur filer des sous aussi, enfin pas à vous d'ailleurs, mais
non,
aux jeunes femmes que vous aidez au Pérou. Pour ça, il y a votre site internet, le Hello Asso, enfin bref, suivez ce super projet. Merci beaucoup, Pauline.
Merci
et Maëlle. Je vous propose d'écouter, alors il n'est pas péruvien, il est franco-équatorien, mais Nicolas Cruz, parce qu'il fait quand même de la bonne musique avec sa cumbia del olvido. Et vous êtes toujours sur le 101.1 de Radio U, ou peut-être sur radio-u.org si vous nous écoutez sur internet. En tout cas, vous êtes toujours en train d'écouter C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale. Et on va passer à notre dernière partie d'émission. Le pays fait face aujourd'hui à des pathologies chroniques d'origine alimentaire, lourdes tant sur le plan économique que sur le plan social. L'éducation à l'alimentation durable recouvre de nombreux enjeux de société, santé publique, environnement, aménagement du territoire, économie agricole, sociaux et culturels, afin que chacun puisse choisir son alimentation et que celle-ci soit favorable à son bien-être et à sa santé. Il doit disposer des savoirs, savoir-être et savoir-faire nécessaires. Les acteurs sont eux aussi très diversifiés sur le territoire régional. Tous sont inventifs, créatifs et dynamiques. C'est le cas du Centre Social Famille Active à Fougères. Au sein du Centre Social de Fougères, des habitants ont co-construit leur projet d'éducation alimentaire à travers une démarche d'éducation à l'environnement. Elle est basée sur une approche partagée et globale par ses aspects sociaux, écologiques, économiques et culturels avec les habitants et dans les écoles pour la vie quotidienne, alimentation, énergie, eau, déchets, habitat, jardinage, compostage, commerce équitable. Nous avons rencontré l'équipe.
Je trouve toujours important de pouvoir transmettre les valeurs dans des choses très concrètes.
L'alimentation.
Donc l'alimentation.
Autrement.
On est sur du sensible, on est sur du sensoriel, on est sur du plaisir, on est sur du partage. Donc c'est effectivement une thématique importante pour avancer, on va dire, ensemble. Quoi.
L'alimentation autrement. Une collection de reportages à la rencontre des acteurs et actrices de l'alimentation saine et durable en Bretagne.
Le dernier aspect, là c'est une des spécialités du Centre Social de Fougères, c'est que comme on a un service d'éducation à l'environnement et au développement durable, ou à la citoyenneté, on a des animateurs éducateurs qui produisent des programmes pédagogiques dans les écoles. Voilà, et la boucle est bouclée, quoi. Donc on crée des programmes pédagogiques, dont deux notamment programmes pédagogiques qui ont un lien fort avec l'alimentation. Terralim, bien évidemment, le bien connu. Et le deuxième, c'est... On a tout un programme dans le cadre de Terre de Source sur les visites de fermes locales. Donc voilà, local, bio, de saison. On est vraiment sur cette notion-là.
Moi, j'ai vu une bête comme ça, là, mes petites, en mode comme ça.
Mais je la vois pas, moi.
Oui, ici. Orange. Ici, il est tout petit.
Non, alors il y a des grosses bêtes aussi. Cherche bien.
Ah, je la vois, il est là.
Il faut la prendre sans la blesser, vas-y.
Il a peur.
Cherche avec le bâton si tu as peur avec le doigt.
Moi je suis éducateur à l'environnement pour l'association Famille Active au centre social. Donc nous, on travaille beaucoup auprès des habitants depuis pas mal d'années sur ce sujet autour de l'alimentation. Moi je m'occupe principalement des programmes pédagogiques qu'on fait auprès des établissements scolaires, dont le thème alimentation durable, agriculture responsable, etc. Donc on voit depuis plusieurs années, on va dire que nous on propose ça depuis 2004 et depuis on voit un petit peu cette thématique-là prendre de l'ampleur au fur et à mesure des années. C'est un sujet de société, donc voilà, on fait évoluer nos projets en fonction des sujets qui importent pour les citoyens. Oui, donc moi c'est Anthony Leblanc, je suis éducateur à l'environnement pour l'association Famille Active au Centre Social de Fougères.
Alors ça, c'est une larve, n'ayez pas peur, ça ne pique pas, c'est une larve de coléoptère, une larve, voilà, de hanneton.
Alors sur la partie programme pédagogique, on a vraiment un travail de co-construction avec les enseignants, donc on va faire moi ce que j'appelle du cousu main en fonction de chaque objectif des enseignants. Donc ça c'est une première manière d'être en co-construction. On travaille aussi en co-construction avec l'éducation nationale et la ville de Fougères pour certains projets. Et entre guillemets, une fois qu'on a validé la démarche et les méthodes pédagogiques, nous, en tant qu'animateurs, on va toujours essayer de faire le lien avec le territoire. Donc aller rencontrer les acteurs. Je prends un exemple, voilà, des bénévoles qui agissent sur le compostage collectif. Si on est sur la thématique de l'alimentation, on va essayer d'aller visiter des jardins familiaux. On va aller essayer d'aller rencontrer des maraîchers, etc. Donc voilà, c'est vraiment toujours faire ensemble. Et vraiment toujours valoriser ce qui se fait autour de la classe, autour de la commune avec laquelle on travaille. Nous, on souhaite vraiment avoir une pédagogie qui soit, on va dire, partagée et surtout pouvoir emmener les enfants sur le terrain. Voilà, c'est, on essaye de pas faire de l'éducation à l'environnement hors sol, on va dire. Donc, pour nous, c'est vraiment l'intérêt d'emmener les enfants sur le terrain, rencontrer des acteurs, et c'est là que ça va prendre tout son sens. Voilà, parce que parler d'alimentation ou d'agriculture sans goûter, sans mettre les mains dans la terre, bon, c'est un petit peu hors sol. Donc, on essaye vraiment d'être le plus proche du terrain. Nous, l'objectif, c'est toujours de permettre aux enfants de comprendre cette thématique de l'agriculture, de l'alimentation, de réfléchir, les mettre en projet pour que eux puissent proposer des choses à améliorer dans leur quotidien, pour que ce soit à l'école ou que ce soit dans les familles. Donc voilà, c'est là qu'on a c'est pour ça aussi qu'on travaille au sein d'un centre social, c'est que nous, l'intérêt, c'est de pouvoir amener ces discussions, ces préoccupations autour de l'agriculture et de l'alimentation au sein même des familles.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement et la Confédération Bretagne Environnement Nature. Avec le soutien de l'ADEME, la DRAF Bretagne et l'Agence Régionale de Santé.
C'était un reportage de l'équipe de Silab. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Pauline et Maëlle de l'asso AMA d'avoir été avec nous. On rappelle leur site internet ama-asso.weebly.com. Vous pouvez aussi aller checker leurs réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Un grand merci également à Claude et Elodie de l'asso France-Palestine Solidarité Nord-Finistère qui étaient avec nous en première partie d'émission. Elle vous donne rendez-vous samedi à 15h, place de la Liberté, pour la manifestation. Demain, pas de c'est vous qui le dites, et oui c'est férié, nous aussi on a le droit de prendre des congés. Je vous dis donc à la semaine prochaine, bon week-end prolongé pour les chanceux, et puis surtout bonne soirée à tous sur le 101.1 de Radio U.
Quasiment un an que le premier confinement a eu lieu, quasiment un an que toutes nos habitudes ont dû changer.
Tu es étudiant à la fac, les cours sur place et le contact avec les enseignants te manquent. La proximité que tu as avec tes camarades est un lointain souvenir pour toi. Tes projets d'avenir ont dû changer.
Radio U te donne la parole. Si tu souhaites témoigner, contacte-nous à l'adresse contact@radio-u.org, sur nos réseaux sociaux ou passe nous voir directement à la radio.
Gian Michele Gareto italiano e canta per te. Oh, do, fo, yeah.